Toutes et à tous, à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de croiser encore ce matin en arrivant. Le sujet de notre partage ce matin m'a été inspiré en fait par les événements assez marquants de ces dernières semaines qui se sont déroulés en France. Vous aurez compris, ce sont les événements liés aux manifestations des Gilets jaunes. J'ai eu l'occasion ces dernières semaines, donc justement, de voir des vidéos, peut-être comme certains d'entre vous, où des groupes de personnes se jettent sur un policier et se mettent à le tabasser. Ces images m'ont mis très très mal à l'aise. J'étais à la limite de ne pas pouvoir les regarder. Et je ne me suis pas trop attardé en fait dessus. Ce déchaînement de violence, ce déchaînement de haine m'était vraiment très difficile à supporter. Aussi, ces événements ont fait naître en moi une réflexion générale sur le respect des autorités que peuvent avoir ces personnes, évidemment, dans ces manifestations, ces personnes violentes en particulier. Et puis ça m'a poussé, et ça m'a amené aussi à me questionner sur mon rapport à l'autorité, et puis à la question de l'autorité et de notre rapport à l'autorité comme personne ayant une relation avec Dieu. Quel est donc ce rapport que nous avons, personnellement, en groupe, mais surtout personnellement, avec l'autorité? Comment est-ce que nous nous positionnons face aux institutions ou aux personnes qui ont autorité sur nous? Devons-nous nous soumettre? Et que nous enseigne la Bible à ce sujet? Et je vais commencer par vous poser une question parce que ce sujet est extrêmement vaste. Alors nous allons le restreindre, je vous rassure. Mais malgré tout, pour comprendre la complexité et l'étendue de cette question, je vais vous demander, est-ce que vous pouvez me citer quelques liens d'autorité que nous avons dans notre vie et avec qui? À quel type d'autorité sommes-nous soumis? Ou alors, quel type d'autorité avons-nous sur d'autres personnes? Parents-enfants? Au travail, absolument. Pardon? Les autorités civiles, enfin nos élus, c'est ça, le gouvernement? Époux-épouse, merci de l'avoir cité. Je ne sais pas si quelqu'un allait se jeter dedans. Ça mériterait d'ailleurs une petite prédication. Hein, mais... Oui, quoi d'autre encore? À Dieu, évidemment, l'autorité du Dieu, absolument. D'autres encore? Absolument, dans l'Église, merci, il y a une forme d'autorité évidente dans l'Église, absolument. Les lois? Ah, bah, oui. D'autres encore? Okay, si on allait creuser, si on allait dans le détail, en fait, on pourrait multiplier comme ça les exemples, non pas à l'infini, mais il y en a une quantité incroyable. Et en fait, ça m'amène à vous poser une deuxième question. Y a-t-il des relations que nous pouvons avoir avec d'autres personnes où il n'y a pas de lien d'autorité? Aucune forme d'autorité. Pardon? Entre amis? Ouais. Les collègues. Donc là, on se place en fait sur des relations qui sont, on va dire, équivalentes, au même niveau. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autorité entre frères et sœurs. Pardon? Entre amoureux? Ouais, encore qu'il y ait souvent un certain nombre de jeux dans un sens ou dans l'autre sur tel ou tel sujet, mais soit, le principe est joli. Je ne suis pas en train de vous dire que toutes nos relations effectivement sont liées ou sont tenues ou structurées par des liens d'autorité, mais malgré tout, si on fait le tour dans énormément de sujets, avec énormément de personnes, nous avons cette relation d'autorité les uns envers les autres. Alors, je n'aborderai pas ce matin justement l'autorité dans l'Église, parce que c'est trop vaste. Je dirais juste, Laurent, soumettez-vous les uns aux autres. Voilà. Et puis, on va continuer. On ne s'en rend pas toujours compte, mais effectivement, dans nos relations que nous avons tous les jours, avec tous les types de personnes que nous avons autour de nous, il y a très souvent un lien d'autorité. Alors que cette autorité soit « dure », entre guillemets, c'est-à-dire structurée par un pouvoir avec une possibilité de coercition, de punition, ou alors qu'elle soit souple, qu'une soit une relation d'autorité en fait qui repose sur une relation naturelle, une autorité qui est acceptée, il y a souvent cette relation. Il y a donc une autorité qui peut se poser de manière institutionnelle, organisée, structurée, explicite. Et il y en a qui le sont beaucoup moins, comme Jésus par exemple, en fait. Jésus avait autorité lorsqu'il enseignait, alors que son autorité ne reposait sur rien. Rien d'humain. Nous pouvons lire dans Marc, au chapitre 1, les versets 22. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. C'est donc au tout début de son ministère, en fait, lorsque Jésus enseigne, les gens se rendent compte qu'il a autorité. Mais je ne vais pas aborder ce type d'autorité, je vais me concentrer vraiment sur celle qui repose sur des institutions humaines, qu'elles soient civiles ou militaires. Dans le Nouveau Testament, l'expression « les autorités », il y en a un certain nombre, cette expression fait souvent référence, dans la plupart des cas, au pouvoir juif ou au pouvoir romain de l'époque. Des pouvoirs institutionnalisés, qui sont organisés, qui sont identifiés, qui sont structurés. Et il est remarquable que Jésus, à aucun moment dans son ministère, ne s'en est pris aux autorités civiles de son époque. Il ne s'en est jamais pris au pouvoir romain, alors que le Romain était là et était des envahisseurs, des personnes qui avaient conquis le pays et qui imposaient leurs lois. Jamais Jésus ne s'en est pris à ce pouvoir durant tout son ministère. Même si ce pouvoir méconnaissait Dieu. Les Romains ne connaissaient pas Dieu, ne servaient pas Dieu, n'adoraient pas Dieu. Mais ils toléraient la pratique religieuse de l'époque. Alors que beaucoup de Juifs, en fait, attendaient le Messie comme une personne qui allait justement les libérer de cette oppression romaine, Jésus n'est jamais allé sur ce terrain. C'est d'ailleurs probablement une des raisons pour laquelle il n'a pas été reconnu comme Messie. Parce que les gens attendaient une liberté, non pas spirituelle, mais une liberté du pouvoir romain. Imaginez si Jésus s'était lancé sur ce terrain, s'il avait lancé un mouvement appuyant, entraînant la libération d'Israël des Romains. Il aurait été immédiatement bombardé, Messie, c'était une évidence, de manière officielle. Cela aurait été tellement plus facile pour lui, pour faire passer son enseignement sur Jésus par ailleurs. Mais il n'en a rien été. En revanche, par rapport au pouvoir spirituel de son époque, il a repris très très sévèrement les autorités religieuses juives qui étaient elles-mêmes pas complètement fidèles à Dieu. Il a été tellement violent à leur encontre, excusez-moi de ce terme violent, mais lorsque l'on lit les textes, c'est quand même un peu dur, il a eu des positions très tranchées. Il a été tellement violent dans ses propos, sur les pharisiens notamment, qui se permettaient de dire au peuple la façon dont ils devaient adorer Dieu, alors qu'eux-mêmes avaient un cœur infidèle. Il a été tellement violent que c'était une des causes, sinon la cause principale de son rejet et de sa condamnation. Il a donc condamné le pouvoir spirituel de l'époque, mais jamais le pouvoir romain. Plus encore, alors que des émissaires pharisiens, justement, de cette autorité spirituelle, lui ont envoyé des émissaires pour le piéger, ils lui ont demandé s'il était convenable, en fait, de payer l'impôt aux Romains, l'impôt à cet envahisseur. Et voilà ce qu'ils se sont dit. Nous le trouvons dans Matthieu, chapitre 22, versets 17 à 21. « Dis-nous donc, et ce sont donc les émissaires des pharisiens qui parlent, « dis-nous donc ce que tu penses de ceci. A-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts à César ?» Mais Jésus, connaissant leurs mauvaises intentions, leur répondit, « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Alors il leur demanda, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ?»« De César. » Jésus leur dit alors, « Rendez donc à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Jésus s'est alors donc positionné très clairement sur le respect des autorités humaines de son époque. Quand bien même était-elle celle d'un envahisseur. Alors je ne sais pas s'il est possible de transposer à notre situation actuelle, mais le message est très fort pour son époque. Un envahisseur violent, il a pris le pays par la force et il impose ses lois. Cet envahisseur, Jésus le soutient dans son autorité civile qu'il a sur le peuple. Oui, l'envahisseur est apte à percevoir l'impôt de la population qu'il a envahi. Et Jésus dit, mon ministère touche à autre chose. Alors, si donc il y a parmi nous des personnes qui sont enclines à ne pas payer leurs impôts, alors je parle bien de maintenant, je ne parle pas du temps de Jésus, je parle bien de maintenant. Si donc il y a parmi nous des personnes qui grognent ou qui n'aiment pas payer leurs impôts, soit parce qu'elles considèrent qu'il est mal utilisé, mal employé, ou alors parce qu'elles ont tellement à payer, leurs revenus sont tels qu'en fait ils ont beaucoup d'impôts à payer, alors qu'ils préfèrent mettre une partie de leurs revenus un peu à gauche sans le déclarer, c'est peut-être le moment en fait d'y penser un petit peu, de revenir à ce texte de Jésus qui dit oui, l'impôt on peut le payer à cette autorité civile, quand bien même soit-elle un envahisseur. Alors, non pas qu'il n'y a rien à redire sur l'utilisation des budgets de l'État, ou que nous n'ayons pas de position politique à avoir, ce n'est pas le sujet. Je ne dis pas que tout est parfait, je me positionne là juste en faveur du gouvernement qui est en place. Excusez-moi, pour le coup, c'est très, très concret, très pratique. Jésus donne là une consigne claire. Rendez donc à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. Et ce qui revient à César, entre autres, c'était l'impôt. Juste une toute petite parenthèse, on n'en a pas toujours conscience, mais sans l'impôt, qu'est-ce qui se passe? Sans l'impôt, en 2-3 mois, la civilisation s'écroule. Plus de policiers, plus de routes, plus d'enseignement, plus rien. En 2 mois, on passe au chaos sans impôt. La deuxième chose par rapport à l'impôt que je voudrais juste souligner, c'est qu'une bonne partie des impôts que nous payons à l'État est en fait redistribuée pour les personnes les plus fragiles, les plus faibles et qui en ont le plus besoin. Une bonne partie de la solidarité en France passe par l'impôt. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Bon, vous allez me dire que j'ai été envoyé par le ministère des Finances. En plus, il va bientôt y avoir les déclarations. Pas du tout. Nous sommes là juste pour parler de ce que nous enseigne la Bible sur ce respect des autorités. Alors, continuons un petit peu. On peut dire que Paul est allé encore plus loin que Jésus sur ce sujet, dans sa lettre aux Romains. Voilà ce qu'il écrit, en fait, aux Romains, chapitre 13, les versets 1 à 5. « Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qui se seront attirés. Car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité ? Fais le bien, et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est, en effet, au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. » Paul affirme là sans embâge que tous les pouvoirs sur terre ne sont pas seulement tolérés par Dieu, ils ne sont pas seulement acceptés par Dieu, mais ils viennent de Dieu, ils sont institués par Dieu. Alors, ce passage peut poser un problème de compréhension. Parce qu'il y a eu dans l'histoire un certain nombre de pouvoirs que l'on ne peut pas imaginer avoir été mis en place sur Dieu. Et il faut, pour comprendre ce que Paul défini comme autorité instituée par Dieu, il faut aller donc dans la seconde partie de ce texte. Et il y a deux caractéristiques, en fait, qui nous aident à comprendre ce qu'est cette autorité instituée par Dieu. Ce sont, d'une part, une autorité qui font la part entre le bien et le mal, et c'est une autorité qui punit ceux qui font le mal et approuve ceux qui font le bien. C'est bien de ce type d'autorité que Paul parle. Sinon, on va s'embarquer dans une discussion sans fin, et je serai moi-même un petit peu gêné avec ce type de discussion. Quoi qu'il en soit, en France, actuellement, il est évident que nous ne sommes pas dans une telle situation où le pouvoir en place est abusif, nous amène à faire des choses qui ne sont absolument pas dans la logique de Dieu. Ça n'est pas notre situation aujourd'hui. Alors, nous pouvons rester critiques, bien évidemment, avec ce qui se passe, avoir des idées particulières, il n'y a pas de souci avec ça. Il n'en est pas moins vrai que notre pays, aujourd'hui, est géré par des lois relativement équilibrées, quoi qu'on en dise. Les lois essaient d'établir les responsabilités de chacun à chaque fois qu'il y a un conflit ou un délit, il faut le reconnaître. Les lois sociales également, et je l'ai déjà relevé, essaient de rééquilibrer les revenus entre les uns et les autres, dans une certaine mesure. Alors tout cela est certainement ajustable, mais globalement, vraiment, nous pouvons constater que nous sommes dans un régime politique équilibré. Aussi se révolter, je parle bien de révolte, aussi se révolter contre les autorités de notre pays aujourd'hui constitue à mon sens un vrai problème à la lecture des textes, du texte de Paul aux Romains. Je suis désolé de prendre position de cette manière, hein, c'est pas quelque chose d'habituel, d'être aussi affirmatif par rapport aux événements de ces dernières semaines. Mais vraiment, à mon sens, les motivations profondes de ces personnes qui deviennent violentes, je ne parle pas de ceux qui manifestent hein, pour réclamer un certain nombre de choses, je parle vraiment des personnes violentes. Pour moi, vraiment, les motivations profondes de ces personnes envers les forces de l'ordre et envers les autorités ne sont pas du tout inspirées de Dieu. Du tout. Je n'en dirai pas plus. Alors, on pourrait aussi parler effectivement de l'autorité de l'Église. J'avais commencé initialement dans mon plan à le mettre, et puis non, c'était trop long, s'il y avait trop de choses, donc je me suis arrêté. Et puis en plus, vous auriez pensé qu'en plus d'être envoyé par le ministère des Finances, j'aurais aussi été envoyé par le conseil d'Église, donc on fera ça une autre fois, mais c'est très intéressant. Aussi bien d'ailleurs de ceux qui ont le pouvoir que de ceux qui sont sous ce pouvoir, sous entre guillemets. Toutefois, juste une précision. La Bible enseigne également que si nous devons être soumis aux lois des autorités instituées par Dieu, elle précise que en cas de conflit entre ces lois-ci et celles de Dieu, il y a un choix à faire. Et c'est le choix qu'ont dû faire certains apôtres, tel qu'il est écrit dans le livre des Actes, en fait. Il y avait Pierre et Jean qui ont été arrêtés, en fait, par les autorités religieuses, et ils sont interrogés. Et voilà ce qui se passe. Il est écrit donc acte 4, les versets 18 à 20. Là-dessus, ils les firent rappeler. Donc, ils, c'est les autorités religieuses de l'époque, et leur interdire formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent : Jugez-en vous-même. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? Quant à nous, nous ne pouvons garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Pierre et Jean, dans cet événement, au cours de cet épisode, ils choisissent ouvertement, d'ailleurs, hein, en le disant clairement, sans le cacher, qu'ils ne peuvent pas suivre les consignes que ces autorités religieuses de l'époque leur donnent. Car ils les considèrent comme contraires, en fait, à ce que Dieu souhaite. Je les mentionne pour principe, mais je ne suis pas certain que nous soyons dans ce type de situation la plupart du temps, actuellement, dans notre pays. Toutefois, ce choix qu'il y a à faire entre parfois l'autorité du Dieu et l'autorité des hommes pose un principe. L'autorité la plus importante, celle qui est tout au-dessus de toutes les autorités, évidemment, est celle de Dieu. Alors, ça pose une question qui est assez intéressante. Je ne sais pas si vous avez dans votre tête une carte, entre guillemets, des différents niveaux d'autorité que vous avez dans votre vie. Et quelles autorités sont supérieures ou plus importantes les unes des autres? Cela permet, en fait, lorsqu'on est clair sur ces questions-là, cela permet vraiment d'éviter des conflits qui sont parfois inutiles, et ça permet également de vivre les choses dans la paix. On sait, voilà, on doit, dans telle situation, répondre à telle autorité et pas à telle autre. Juste pour l'anecdote, en fait, lorsque nous avions emménagé à Fresnes il y a quelques années, une personne était venue chez nous, et puis on a un escalier où il n'y a pas de rambarde. Et effectivement, je pouvais comprendre que cette personne y voyait un danger. Et donc cette personne me le fait remarquer, je l'entends, elle avait raison en plus, hein. Et puis elle insiste, en fait, je comprends au bout d'un certain temps qu'elle veut m'entendre dire « oui, tu as raison, je vais installer une rambarde ». Or pour moi, cette personne n'avait pas autorité chez nous. Et donc je l'ai laissé avec son insistance, mais je ne pouvais pas lui dire « oui, je vais le faire ». Je disais pas que je... Enfin, la question n'était pas là, pour moi, elle n'avait pas autorité chez nous. Bon, elle est toujours pas là, la rambarde, mais... Quoi qu'il en soit, effectivement, la première des autorités auxquelles nous sommes soumis, c'est Dieu. L'autorité fait partie de ce qu'est Dieu. Il est souverain. Mais dans le sens premier de la définition de souverain, et je vous la donne, cette définition, souverain se dit d'un pouvoir qui n'est limité par aucun autre. Et on est au cœur de ce qu'est Dieu. Dieu a un pouvoir, une autorité qui n'est limitée par aucun autre. La définition est claire. Il est souverain, il est seigneur, seigneur encore une position d'autorité, et il est sur l'ensemble de sa création. Dieu décide et il exécute ses desseins en son temps, lorsqu'il le veut, lorsqu'il le souhaite, lorsqu'il l'a décidé. Rien ni personne ne peut l'en empêcher. Dieu a donc autorité sur toute chose, en tout temps. Et d'ailleurs, si on reprend la prière du Notre Père, elle commence par « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. » Autorité. Et toute autorité appelle l'obéissance, sinon ça n'est pas une autorité. Il ne peut donc y avoir autorité sans obéissance. Sinon, que signifie avoir de l'autorité? Obéissance à Dieu, en premier. Obéissance aux lois de notre pays, ensuite. Et vous pouvez ajouter obéissance à toutes les autorités qui encadrent vos vies, qui encadrent nos vies. Mais l'obéissance à Dieu, en premier. Et c'est bien ce que nous sommes appelés à vivre en tant que filles et fils de Dieu. Alors nous pourrions prendre plus de temps pour explorer toutes les situations hein, qui peuvent nous amener parfois à questionner cette autorité et à questionner cette obéissance, parce que nous avons nos positions propres, notre réflexion propre, mais c'est pas le sujet. Lorsque j'étais jeune, en Christ, hein, j'avais une idée, on va dire, assez large de l'obéissance. Comprenez par large, j'avais une idée un peu floue, un peu fluctuante de ce qu'est l'obéissance. J'aimais Dieu, et je me disais, cela suffit, j'aime Dieu. Et une bonne part de ma relation avec Jésus, en fait, était basée sur mes sentiments que j'éprouvais pour Dieu, qui étaient réels. Hein. J'étais également fier de mon indépendance de pensée, mon indépendance de parler, mon indépendance vis-à-vis de ma communauté. J'étais fier de mes idées, de mes positions théologiques qui parfois étaient un petit peu en décalage par rapport au reste de la communauté. Et je me plaisais à me voir différent. Forcément, et je dois le reconnaître, forcément je me sentais un petit peu supérieur puisque je ne faisais pas partie de cette masse, enfin du reste de l'Église que je voyais comme cette masse, excusez-moi, hein, c'est un peu ce que je vivais. Bon, j'étais jeune, hein, en Christ, hein. Et j'en avais fait une partie de mon identité. Plutôt que de construire mon identité sur ma relation à Dieu dans l'obéissance, en fait, je me disais, bah voilà, je suis un petit peu différent des autres, je vois un petit peu mieux quand même, je pense un petit peu différemment. Et je m'en étais vraiment une identité. Et j'aimais cette identité. Et un jour, lorsque je lisais une étude biblique sur l'obéissance, justement, ce jour-là, je me suis pris une gifle mais monumentale. Car il était expliqué dans cette étude biblique qu'aimer Dieu, c'est lui obéir. Alors lorsque j'ai lu ça, je n'y ai pas cru tout de suite. Hein. Donc j'ai foncé voir les textes qui appuyaient cette déclaration, parce que c'était pour moi énorme. Et voilà ce que j'y ai lu, en fait, dans Jean. En fait, c'est que Jean, surtout, qui a écrit ça très très clairement. Jean, enfin, c'est Jésus donc qui enseigne. Jean, chapitre 14, le verset 15, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. » C'est Jésus qui dit ça. Et au verset 21, plus loin, « Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui que j'aime, qui m'aime, pardon, moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et dans l'épître de Jean, dans sa première épître, il écrit « Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. » Quel choc. Ça m'a refait descendre, mais directement de mon nuage, là. En fait, il n'en était pas un, hein. Moi qui étais tellement fier de ma relation avec Dieu, vraiment, hein, moi qui étais fier de mes sentiments, je me suis en fait retrouvé confronté à mon orgueil. Ce que Dieu attendait de moi, en fait, était tellement simple, lui obéir. Et aujourd'hui encore, pour être tout à fait honnête avec vous, je pense souvent à cela car le travers de ma jeunesse me guette toujours un petit peu. Et régulièrement, je dois me rappeler que aimer Dieu, c'est lui obéir. Il me faut régulièrement me remémorer cette vérité biblique. Aimer Jésus, c'est obéir à ses commandements. Il est certain, et pour en arriver à la conclusion, il est certain que la réponse attendue par Dieu à son autorité, c'est l'obéissance, la soumission et l'acceptation de ses voies, quelle qu'elle soit. Alors cela peut paraître vraiment très très austère comme message. Vraiment, ces mots-là, obéissance, soumission, acceptation, sont des mots qui sonnent mal à notre époque, où l'indépendance est louée vraiment par tous, où les règles et les normes sont ridiculisées bien souvent, où certains repères bibliques, certains repères moraux bibliques sont consciencieusement discrédités par les médias notamment, et notre entourage. Malgré tout, la réponse attendue par Dieu à son autorité pour chacun d'entre nous est l'obéissance. Et je finirai cette prédication en fait avec une précision qui est pour le coup très très positive, qui est apportée par Jésus dans un de ces trois derniers textes que nous avons vus ensemble. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est vraiment tout le bien que je prie pour chacun d'entre nous. Amen.